Bonjour à tous. Je vous invite aujourd'hui à lire un texte dans la lettre aux Galates, au chapitre 5. On lira les versets 16 à 24. Galates, chapitre 5, versets 16 à 24. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. J'ai un ami qui a acheté un beau chat. Et puis il s'est dit, je vais l'éduquer ce chat. En fait, je vais en faire un petit homme. Et alors, il a commencé à l'éduquer, il a appris à marcher sur les deux pattes arrière debout, comme ça. Bon, ça a demandé du temps, mais il a réussi, le chat se déplaçait. Puis il a dit, après, je vais lui apprendre un peu à servir. Hein, il faut bien qu'il soit utile, ce chat. Alors, il a appris à servir, et quand il voulait boire un coup, il était à son salon, il disait au chat, allez, va me chercher un orangina, hein. Bon, une bière peut-être, mais enfin, on va dire un vrai orangina. Et le chat se ramenait avec un plateau, l'orangina, le verre, comme ça. C'était vraiment quelque chose d'impressionnant. Et un jour, il y a un ami qui arrive chez lui, voilà un petit peu frimé, là. Ah, attention, j'ai éduqué mon chat, c'est un vrai homme maintenant. Oh, bon, t'es sûr? Oui, je te promets, c'est un vrai homme. Et le chat était là, il dit au chat, allez, va chercher deux oranginas dans le frigo. Et le chat se ramène avec un plateau, deux oranginas, deux verres, et il marche comme ça. L'autre était vraiment impressionné. Et puis, manque de bol, il y a une souris qui passe. Au moment-là, le chat, il lâche tout. Oh, il saute sur la souris, il la dévore dans le salon. Ah, là, là. Terrible, hein. Non, les chats sont faits pour rester des chats. Et les hommes sont faits pour rester des hommes. L'œuvre de sanctification que l'Esprit opère en nous n'est pas une amélioration de notre vieille nature, mais c'est la croissance de notre nouvelle nature que nous avons reçue le jour de notre conversion, ou si vous préférez, le jour de notre nouvelle naissance. Et on n'est pas en train d'essayer de refaire la vieille nature en mettant du plâtre et tout. Cette nature est appelée à mourir, et on marche, comme dit l'Écriture, en nouveauté de vie, avec une nouvelle nature. Et je vous rappelle qu'être né de nouveau, ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire donc qu'on est réconcilié avec Dieu, qu'on est déclaré juste, que notre nom est écrit dans le livre de vie, qu'on nous prépare une place au ciel même, et qu'un jour, il y a la promesse que le Seigneur viendra nous rechercher. Notre nouvelle nature nous permet d'avoir accès au trône de la grâce. Ce trône où est assis le maître de l'univers que nous avons le privilège d'appeler notre Père. Être né de nouveau, ça veut dire qu'on est ressuscité avec Christ et qu'il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Et je me dis, quand on se rappelle tout ce que nous apporte notre nouvelle naissance, et qu'il nous apporte par grâce, parce que nous n'avons rien mérité, est-ce que ça ne nous donne pas envie de vivre à fond pour notre Dieu, d'avoir une vie qui le glorifie, où le péché serait totalement absent, une vie qui porte des fruits pour sa gloire, une vie vraiment consacrée à son service? Est-ce que ça ne vous donne pas envie de témoigner de l'amour de Dieu et de proclamer cette bonne nouvelle? Je dirais que la première chose que nous donne cette nouvelle naissance, c'est cette envie d'adorer celui qui a tout accompli pour nous, qui nous a réconciliés. Quand on lit le premier chapitre dans la lettre aux Éphésiens, trois fois il est dit qu'on est sauvé pour célébrer la gloire de Dieu. Mais je crois qu'on a tous compris que dans nos vies, il n'y a pas que les fruits de l'Esprit comme ils sont si bien décrits par l'apôtre Paul. Il y a aussi, hélas, une certaine place pour les œuvres de la chair. Alors pourquoi il y a cette espèce de, je vais dire entre guillemets, mélange? Pourquoi étant né nouveau, je pêche encore? Pourquoi cette vieille nature n'est pas morte totalement le jour de ma nouvelle naissance? N'a-t-elle pas été crucifiée? Et Paul ne dit-il pas, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi? Et pourquoi je n'arrive pas à dire pleinement oui, c'est Christ qui vit en moi? Il n'y a plus de place pour cette vieille nature, je porte les fruits de l'esprit, il n'y a plus aucune œuvre de la chair et je suis totalement libéré du péché, de la tentation et tout. Pourquoi finalement c'est si difficile de vivre totalement conduit par l'Esprit de Dieu? Je pense que pour avoir une vie conduite par l'Esprit, on doit prendre conscience d'au moins trois vérités. La première, il y a un combat entre nos deux natures. La deuxième vérité, il y a un chemin qui mène à la victoire. Et la troisième vérité, nous sommes appelés à porter du fruit. Alors cette première vérité, il y a un combat entre les deux natures. John Stott lui dit que ce passage montre clairement que la vieille nature est encore présente, l'idée de la vieille nature, que la vieille nature puisse être éradiquée complètement, est ainsi réfutée. Il y a une réalité, il y a vraiment un combat en nous entre ces deux natures. On est tous d'accord qu'aucun chrétien ne mène une vie sans péché. Et si vous en voyez un, à mon avis, il a vraiment un gros problème. Et parfois, ça peut nous décourager. On peut avoir une lutte avec certains péchés qui durent pendant des années, dans lesquels on tombe régulièrement. La tentation est là, on sait qu'on ne doit pas faire telle chose, mais on tombe dedans. Et ça peut mener, parfois, au découragement. Et on peut se poser des questions, pourquoi après avoir été sauvé, purifié, sanctifié, quand on a tous les noms qui sont utilisés dans la Bible pour dire qu'on a été lavé de ce péché, eh ben, on peut se poser la question, pourquoi je tombe encore dans ce péché? Pourquoi je sais que c'est une mauvaise chose et que je le fais quand même, et que bien des fois il y a des choses bonnes que je devrais faire et j'arrive pas à les faire? En tout cas, il y a une chose qui doit bien être ancrée en nous, pourquoi tomber dans le découragement? Une vérité fondée sur la Bible, c'est que notre salut a été acquis sur la croix où Jésus a tout accompli. Il a pris sur lui tous les péchés de notre vie. Il est dit qu'il a été fait péché pour nous. Il est mort une fois pour toutes et on ne peut rien rajouter à son œuvre, même pas notre sanctification. Dans la lettre aux Hébreux, il est dit, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois. Mais il est entré une seule fois. Il a offert un seul sacrifice qui nous rend parfaits. En ce qui concerne nos péchés, j'aime à me rappeler qu'il est dit dans l'Épître aux Hébreux que Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Pas l'idée qu'il devient amnésique, mais une fois que c'est pardonné, on ne revient pas dessus. Je crois que il y a des difficultés à avancer sur ce chemin de la sanctification. Il y a des luttes, il y a des combats que l'on gagne, il y a des combats que l'on perd, mais ça ne remet pas en cause mon salut. Ça ne peut pas enlever de moi la joie de mon salut. L'apôtre Paul nous dit dans l'Épître aux Romains, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ. Mais ce combat, il ne faut pas le nier, il est une réalité. Ça serait assez malhonnête de ne pas de dire « mais moi je n'ai aucun problème avec le péché, la tentation, je n'ai pas de combat en moi ». Ça serait à mon avis vraiment de la malhonnêteté. L'apôtre Jean, qu'on a appelé l'apôtre de l'amour, dit lui-même dans une de ses épîtres que « si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous ». C'est donc une réalité à laquelle aucun chrétien ne peut échapper. On a le désir d'obéir au Seigneur, de faire le bien, mais on découvre cette réalité que bien souvent nous tombons, que nous faisons le mal, que nous tombons dans le péché. Ça ne veut pas dire que tous les jours on nage dans le péché allègrement et qu'on dit « je ne suis pas en train de dire ça ». Je veux vraiment qu'on prenne conscience qu'il y a un combat qui est vrai, qui est réel. Et il ne faut pas le nier. Si on essaye de le nier, on ne va pas pouvoir entrer vraiment dans ce combat et avoir la victoire. Et l'apôtre Paul lui-même dit dans Romains 7, ce passage qui a fait couler de l'encre, si un jour vous l'étudiez avec des commentaires, vous allez voir les piles de commentaires que vous pouvez avoir. Mais Barbara va découvrir ça. Je découvre donc cette loi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. La deuxième vérité, c'est qu'il y a un chemin qui mène à la victoire. C'est vrai qu'il y a des paroles de l'apôtre Paul qui nous perturbent. Quand il dit « ce n'est plus Christ qui vit, c'est Christ qui vit en moi », je me dis « mais est-ce que je peux vraiment dire ça comme ça, moi ? Parce que si Christ vit en moi, Christ a vécu sans péché, une vie parfaite, est-ce que c'est ça que l'apôtre Paul veut dire ?» L'apôtre Paul l'a dit dans notre passage au verset 24, « Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié leur nature avec ses passions et ses désirs. » Moi, je crois que je vous ai déjà dit qu'il fallait que j'aille régulièrement à la quincaillerie pour acheter des clous pour crucifier ma vieille nature et qu'elle a tendance parfois à ressusciter. C'est vrai que c'est une vraie lutte de crucifier totalement cette vieille nature et de vivre tout le temps en nouveauté de vie. Et on sait que personne n'est appelé à vivre sous la domination de sa vieille nature. Cette vieille nature qui ne se soumet pas à l'Esprit de Dieu, mais qui nous attire vers le péché. Bien sûr, après, dans la lutte contre cette vieille nature, il y a le danger du légalisme qui guette chaque enfant de Dieu. Mais j'ai déjà prêché plusieurs fois là-dessus, donc je n'en dirai pas plus, mais je rappelle, c'est un danger. Pour être un bon chrétien, il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela. C'est vrai que comme on a toujours le désir, bien sûr, de plaire à Dieu, mais de montrer peut-être une belle image aux frères et sœurs, la tentation de vivre un peu sous l'égalisme est un peu grande. Donc je fais telle et telle chose, je suis bien vu, je suis un bon chrétien et Dieu va me bénir. Mais vraiment, c'est une erreur. L'apôtre Paul, lui, a déjà rappelé dans cette lettre avec une certaine fougue que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et pas pour nous remettre sous l'esclavage de la loi qui nous dit « tu dois faire ceci, tu dois pas faire cela ». C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il nous demande de vivre par l'Esprit et surtout pas de nous remettre sous l'esclavage de la loi. Et alors on pourrait se demander comment réussir à crucifier cette vieille nature qui est tellement impuissante à résister au péché. Je vous invite encore à écouter ce que l'apôtre Paul nous dit. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Si par l'Esprit, vous faites mourir. Je n'ai pas la force de faire mourir la vieille nature, mais par l'Esprit Saint, je peux faire mourir la vieille nature. Mais il est bien parlé, si vous faites, ça engage quand même ma volonté de vouloir faire mourir cette vieille nature. Et je dois bien rester conscient que seul, c'est une chose qui est impossible de faire. Je ne peux pas crucifier cette vieille nature et faire mourir les passions qui sont en moi. Mais je dois être aussi pleinement conscient que l'Esprit Saint a la puissance pour vaincre cette vieille nature qui habite encore en moi. Seulement, Paul ne dit pas que cette œuvre de l'Esprit se fait toute seule. Il dit bien, si vous faites mourir, il y a vraiment une sorte d'engagement à lutter contre le péché. Dans l'Épître aux Hébreux, il dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché. Et il y a une vraie guerre qui doit être menée contre le péché dans nos vies. Je crois qu'il y a un chemin qui mène à la victoire sur cette vieille nature. Et sur ce chemin, j'ai essayé de l'emprunter là. J'ai vu qu'il y avait plusieurs pancartes. C'était des indications, c'était un peu mieux qu'un GPS. Parce qu'on sait que les GPS peuvent aussi nous tromper. Et sur la première pancarte, c'est marqué « Confession ». Qui implique de reconnaître que j'ai un problème avec tel péché. Donc, confession. Confession, c'est aussi mise en lumière du péché qui peut être dans ma vie. La deuxième pancarte, un peu plus loin, c'est marqué « Pardon ». C'est une pancarte qui est mise, vous n'avez pas vu là, c'est des petits spots autour, tout, tout. Parce que l'apôtre Jean nous dit « Si nous confessons nos péchés, Jésus est fidèle et juste pour nous pardonner, mais aussi pour nous purifier, ou si vous préférez, pour nous libérer du péché. » Confession, pardon. Et la troisième, c'est collaboration. Apprendre à collaborer avec le Saint-Esprit. Ou si vous préférez, vous nous soumettre à l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Et il faut dire que cette étape n'est pas toujours facile. Hein. Ah, moi j'aimerais bien des fois que l'Esprit fasse une œuvre dans ma vie, hein, qui balaye tout ce qui ne va pas, et puis qui me fasse marcher rempli de lui, tout ça, et qui ne me demande pas, Jean-Pierre, il faudrait que tu prennes tel chemin et que tu abandonnes telle chose. Ah oui, hein, la vie chrétienne, c'est pas forcément le petit fleuve tranquille, hein. Parfois il faut remonter le torrent. Après son baptême, le Saint-Esprit a conduit Jésus à l'autel. Parce qu'ils avaient fait un repas en commun, tout ça, ils ont fait la méga teuf, c'était vraiment sympa. Ah non, hein, je me suis trompé dans mes notes, c'est dans le désert, il n'y avait pas d'hôtel. L'Esprit Saint conduit le Fils de Dieu dans le désert, dans quel but ? Qu'il soit tenté. Hein, et on peut traduire le mot tenté par éprouver. Et étudier une fois correctement ces trois tentations, vous verrez qu'on les retrouve tout le temps dans nos vies. Lui-même a été tenté, a été éprouvé, et il a résisté, il a eu la victoire. Et dans Luc au chapitre 4, il est dit qu'il a été poussé par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté, et à la fin de la tentation, il est ressorti revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et là, il est entré pleinement dans son ministère. Et frères et sœurs, mon désir pour chacun de nous est que nous puissions tous vivre de grandes choses avec notre Seigneur, qu'il puisse vraiment nous accorder pleinement sa bénédiction. Et il me semble que si nous voulons crucifier notre vieille nature, nous devons accepter que parfois le Saint-Esprit nous conduise dans des chemins d'épreuves qui peuvent être douloureux. Certains d'entre vous savent que mon passage préféré de l'Écriture, c'est « Je suis le cep et le Père est le vigneron ». Et je ne connais pas grand-chose en vigne, mais un petit peu, surtout depuis que je vais chez Pierrot, dans son vin. Et je sais qu'il faut tailler avec le sécateur les branches qui portent pas de fruits, parce qu'elles prennent de la sève pour rien, donc on les coupe pour que la sève aille dans les branches qui portent du fruit, pour qu'elles en portent de plus beau. Alors une fois, j'ai vu le vigneron là qui taillait, oh, il faut que j'aille voir ça de plus près. Alors j'ai un peu discuté avec le vigneron, puis je lui ai dit, ça te dérange si j'écoute la vigne, ce qu'elle dit. Il m'a dit, non, vas-y. Alors j'ai approché mon oreille comme ça de la vigne, et quand elle a passé le sécateur, bah, elle a dit qu'elle n'était pas contente, que ça faisait mal. Je lui ai dit, tu lui fais mal à ta vigne, elle vient de me le dire. Oui, mais il dit, si je coupe pas la branche, elle ne portera pas de fruit, et après, elle ne me servira à rien. Et le but de planter une vigne, c'est qu'elle porte du fruit, et que je puisse me réjouir, avoir du plaisir à voir ses fruits. Ah bah j'ai dit, dans le cas-là, taille, hein. Jamais personne n'a dit, c'est pas marqué dans l'Écriture non plus, que la crucifixion était une partie de plaisir. Yves Garret, qui était prof à l'Institut biblique, nous a dit une fois, « La marche dans la sanctification est progressive et douloureuse, car le dépouillement de notre vieille nature ne peut se faire sans sacrifice, et la marche dans la foi qui saisit la victoire est difficile. » Puis c'est justement marqué sur cette dernière pancarte, c'est marqué « Victoire !» Car la bonne nouvelle que je vous donne ce matin, c'est que la victoire sur le péché est possible. Parce que Christ est mort sur la croix. Et la mort de Christ sur la croix agit dans notre vie pour faire mourir notre vieille nature. Je dirais que la soumission à l'Esprit de Dieu nous mène à la victoire, mais pour nous soumettre à l'Esprit, nous devons compter sur la grâce de Dieu et pas penser que par nous-mêmes, on est capable. Pour emprunter ce chemin, je utiliserai une parole de l'apôtre Paul. Il dit que c'est Dieu qui nous donne le vouloir et le faire. Alors, en général, avec mes amis calvinistes, n'ont pas tout à fait la même interprétation que moi. Je ne sais pas si mon interprétation est plus anabaptiste ou juste jean-pierriste, mais certains disent que comme c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire, c'est une œuvre de la grâce totale et toute ma volonté, tout ce que je vais faire, c'est vraiment la grâce de Dieu seul qui agit. Et moi, ça me dérange un petit peu parce que je ne crois pas qu'on ait des marionnettes. Donc ma manière d'interpréter, qui n'est peut-être pas la meilleure, moi j'ai dit que Dieu m'a donné la vie et la force de me mouvoir. Et là, je regarde mon ami Fernand, la vie est en lui, et Dieu lui donne assez de force pour qu'il se lève de sa chaise. Voilà. Et pour se lever de sa chaise, il a fallu qu'il appuie sur ses jambes. Vous voyez, il a tout en lui pour se lever de sa chaise, mais s'il ne pousse pas sur ses jambes, il ne se lève pas. Et même si Dieu crée en moi le vouloir et le faire, il faut que j'entre dedans. Je vous rappelle dans la Bible, notez le nombre de fois qu'il est dit qu'on est appelé. Donc Dieu appelle parce qu'il a tout préparé, mais il faut entrer dans cet appel. On est appelé à entrer dans la sanctification. Quasiment tout le Nouveau Testament est un appel à marcher dans la sainteté. Dépouillez-vous du vieil homme, revêtez l'homme nouveau, faites mourir la vieille nature, marchez en nouveauté de vie. Il y a tout un appel à la sainteté, mais il faut entrer dans cet appel. C'est comme si Dieu disait, voilà le chemin qu'il faut prendre, il est là devant vous, vous pouvez y aller, je peux rester devant la porte et pas y aller. Et mon expérience pastorale me montre qu'il y a des gens qui vivent dans le péché depuis 20 ans, 25 ans, et qui ne s'en sortent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas la volonté, ils n'ont pas le truc de mettre ça à la lumière et de dire, je veux vraiment lutter et apporter ça devant Dieu. C'est vrai que la sanctification commence par une œuvre de la grâce qui découle de la foi où tout est accompli, et je crois que je dois vraiment entrer dedans. Et donc la troisième vérité, on est appelé à porter du fruit. Et on n'est pas appelé à rester des arbres chétifs, mais des arbres qui portent du fruit. Il faut parfois du temps vraiment pour porter du fruit. Nous, quelqu'un nous a mis un péché dans le jardin. Un péché, comme on était pêche, hein. Il nous avait dit qu'on portera des fruits au bout de 3 ans. Et c'est vrai, au bout de 3 ans, on a mangé des fruits. Hein. Ils sont très bons en plus. Il faut du temps, parfois. Il a fallu que quelqu'un taille des branches et tout ça. Mais quand on voit les fruits, on est content. Et le Seigneur a le droit de venir cueillir du fruit dans vos vies. Parce que vous êtes les sarments. Et le but, c'est que vous portiez du fruit. Et le Seigneur a le droit de venir chercher du fruit dans vos vies. Et ne partez pas dans ce piège-là. Ah, mais moi, je ne porte pas de fruit, je suis comme ci, je suis comme ça. Non, on porte tous du fruit. Et dans la parabole, enfin, c'est pas vraiment une parabole, dans l'histoire du cèpe, le cèpe, il porte du fruit. Et le but de la taille, sinon, qu'il en porte encore plus. Et déjà, vous portez du fruit dans vos vies. On aurait dire aussi que personne ne plante un arbre pour qu'il porte de mauvais fruits. À pas être quand même... hein. Ou même pour qu'il en porte très peu. Hein. Si on plante un arbre, on espère qu'il va avoir beaucoup de fruits, surtout si c'est des mirabelles. Hein. Mais je dirais, le Seigneur a planté en nous cette nouvelle nature, et son désir, c'est que le fruit de l'Esprit se développe en abondance pour que le Père soit glorifié. Ce n'est pas le serment qui est glorifié, c'est le Père. Et quand je mène une vie à la gloire de Dieu, que je porte les fruits d'Esprit, que je développe le caractère de Jésus, c'est le Père qui est glorifié. Et je deviens un témoin vivant de la grâce de Dieu parce que j'ai une vie transformée, une vie qui glorifie le Père. Alors, la question des fruits dans Galates, c'est pourquoi parle-t-il du fruit d'esprit et qu'ensuite il va nommer 9 fruits, il y a toujours des tas d'interprétations. Moi, personnellement, je pense tout simplement que Paul dit, voilà ce que produit le travail de l'esprit en nous, c'est ces fruits que nous voyons. Ce n'est pas qu'un fruit plus important que l'autre, je crois que c'est quelque chose qui est uni. Le Seigneur ne développe pas un trait du caractère de Jésus en nous et pas l'autre. Non, il veut vraiment que le caractère de Jésus en entier se développe en nous. Et les fruits de l'Esprit, c'est le caractère de Jésus. Mais c'est vrai que nous avons bien souvent besoin de passer du temps dans la prière, la méditation de la parole pour apprendre à connaître le grand vigneron. Combien on doit apprendre à demeurer vraiment en Jésus et apprendre déjà ce que veut dire demeurer en Jésus. Et tout comme le sarment qui ne peut pas porter du fruit s'il ne reste pas attaché au cèpe, on ne peut pas en porter si on ne reste pas attaché à Jésus. Et vous notez que dans la parabole du cèpe, il n'est pas dit de faire quelque chose, mais de rester attaché à Jésus pour que sa vie coule en nous. Et je me dis vraiment, on a eu ce privilège d'être, j'ai envie de dire, greffé sur le cèpe qui est Christ, le jour de notre conversion. Et par son esprit, maintenant, il vit en nous, il œuvre en nous. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de dire que celui qui a créé l'univers, qui s'est fait homme, qui est mort sous la croix, qui est ressuscité, nous a donné son esprit pour qu'on vive pleinement avec lui. Pour conclure, je dirais que vraiment je remercie le Seigneur pour sa patience, pour son amour, pour sa miséricorde, pour sa bonté, pour sa fidélité, pour son pardon. Parce que cela me rassure de savoir que ce Dieu qui m'appelle à la sainteté ne me condamne jamais quand je chute. Mais il est ce Père bienveillant qui me voit comme son enfant, même quand je n'arrive pas à me soumettre au Saint-Esprit. Ça, c'est la grâce, cette bonté, cet amour de Dieu qui nous manifeste alors qu'on ne mérite pas. Et je remercie sincèrement que son amour pour chacun d'entre nous ne se mérite pas, mais nous pousse à vouloir porter des fruits pour sa seule gloire. Je vous invite à une minute de silence et après un moment de prière. Seigneur notre Dieu, je veux encore te louer et t'adorer parce que tu es Dieu. Je veux t'adorer parce que tu es venu jusqu'à nous. Tu as fait de nous tes enfants en nous lavant de notre péché, en nous purifiant. Et je veux te dire merci pour ce pardon, mais aussi pour cet amour que tu manifestes envers nous. Merci de nous avoir donné ton esprit et de nous faire marcher sur ce chemin de sanctification. Merci Seigneur qu'à chaque fois que nous tombons, tu es là pour nous pardonner, nous relever, nous aider à poursuivre le chemin. Merci pour cette joie qui est dans notre cœur de savoir que nous t'appartenons et qu'un jour tu reviendras nous prendre, Seigneur. Merci encore de cette liberté que tu nous donnes de pouvoir célébrer régulièrement ces cultes pour ta seule gloire, Seigneur. Amen.